franceinter.fr.
Meanwhile, back at the Paris branch of contemporary depression, I am dropping through the famous blueness like a pearl diver.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Pose de con.
Allez. Une heure tout vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Une heure tout vous.
We're gonna be fine.
Don't go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir à Noël en ce 24 décembre? Et à quelques heures de l'échéance, vous êtes nombreux à vous poser la question. Eh bien, nous, on a trouvé un moment suspendu, un geste artistique, une trêve poétique, un film dans lequel on se sent bien. Un film idéal au milieu de l'hystérie consumériste. Alors, joyeux Noël tout le monde et à vous aussi, Laurent.
Joyeux Noël, Christine. Joyeux Noël et bienvenue à tous et à toutes.
Un chauffeur de bus dans une petite ville américaine écrit des poèmes à ses heures perdues. C'est ça le pitch? Ouais, c'est ça. Et à partir d'un argument si simple, lui réalise une œuvre. Patterson, la dernière rêverie de Jim Jarmusch sur les écrans depuis mercredi. Un couple, 7 jours de la semaine, chaque jour est pareil. Pourtant, aucun ne se ressemble, teinté de nuances qui feront toute la différence. Et l'autre cadeau, eh bien, c'est de le rencontrer, lui. Cet éternel adolescent de 63 ans, Jim Jarmusch, posé, réfléchi, punk et poétique. Jarmusch, notre seul et unique invité aujourd'hui. Les sorties de cette semaine de Noël à côté de Patterson, un drame japonais, un chef cuisinier égyptien, une jeune femme aveugle, Isabelle Huppert en chanteuse oubliée, ou le portrait d'un photographe sulfureux. Et pour plonger tout de suite, Laurent, dans Patterson, le nouveau long-métrage de Jim Jarmusch, et bien extrait, une chanson, extraite du film et signé Teddy Pendergrass.
Well, 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 well
three dimensions, height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension, time.
Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet.
Je suis américain, mais je n'y suis pour rien. C'est le hasard qui m'a fait naître là. C'est vrai que Jim Jarmusch se démarque beaucoup du cinéma US. Ce serait même lui l'inventeur du cinéma indépendant américain contemporain. Naissance en 84 avec ce film Strangers in Paradise, caméra d'or au Festival de Cannes. Et déjà cet univers drôle, mélancolique, tellement séduisant, et ce noir et blanc parfaitement maîtrisé. Suivront Down by Law, Mystery Train, Dead Man, on peut le dire, son chef-d'œuvre western, une parabole philosophique et déjà l'univers poétique de William Blake, Ghost Dog, une sorte d'hommage à Melville, Broken Flowers ou le très abscon The Limits of Control. Là, on a cru le perdre un petit peu et puis on l'a retrouvé avec cette incroyable histoire d'amour Only Lovers Left Alive jusqu'à ce film Patterson. 30 ans de cinéma, toujours dans la marge et cette devise, difficile de se perdre si on ne sait pas où on va. À l'heure où Trump va présider aux destinées de son pays, lui, Jarmusch, plante le décor de son nouveau film Patterson à Patterson, New Jersey, la ville des poètes, et notamment celle d'Allen Ginsberg, mais aussi ville melting pot irlandais, allemand, italien, européen de l'Est, syrien, libanais. Donc, Laurence, n'est pas un hasard si Jarmusch a choisi une iranienne, Golshifteh Farahani, pour jouer la bien-aimée de son héros, incarné par Adam Driver.
Oui, c'est vrai, l'altérité est au centre souvent des films de Jarmusch et la belle iranienne est là pour le prouver une fois de plus. Mais avec Jarmusch, il faut toujours se méfier des apparences. Hein. Alors, Patterson ne pourrait être qu'un joli petit film absolument sympathique et définitivement mineur, légèrement décalé, ouais. Une gourmandise sucrée avec ses deux héros craquants et son petit chien à tomber. Ben oui, mais seulement rien n'est simple avec Jarmusch. Enfin, rien n'est comme on le croit. Car ce film, c'est aussi peut-être pour moi d'abord un film poétique sur la recherche de la poésie à l'image de sa structure narrative, très cadencée, avec ses 7 jours, et chaque jour avec son rituel, donc sa scansion, comme on dit en poésie, sa métrique, très exactement. De quoi naît la poésie, semble nous demander, et se demander Jarmusch en permanence, d'un rien, d'une envie, et son héroïne n'en manque pas, des envies, hein, d'un geste, une boîte aux lettres qui tombe et qu'on relève tous les jours, d'un objet, une boîte d'allumettes qui va s'avérer être presque magique. Bref, tout ça, c'est le parti pris des choses à la façon Francis Ponge, ou comment réenchanter le quotidien à travers la poésie et bien entendu à travers le cinéma. C'est ça que réussit magnifiquement Patterson.
Et dans ce couple à trois, il y a l'homme, la femme et le chien.
Exactement,
Laurent.
le chien craquant, absolument craquant.
Nous avons rencontré Jim Jarmusch, qui était de passage à Paris. Jarmusch va évoquer, dans le désordre, son film bien sûr, mais aussi la poésie, le noir et blanc, Bob Dylan, la menace terroriste... ou Ken Loach. Jarmusch comprend le français, mais répond en anglais. Il est interprété et traduit par Harold Manning. Le voici.
Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions. Height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension. Time. Then some say there can be 5, 6, 7. I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad.
Bonjour, Jim.
Bonjour.
L'une des questions posées par votre film Patterson, ce serait celle-là. Sommes-nous tous des artistes?
Well, we all have dreams, we all have the potential.
Nous avons tous des rêves, nous avons tous la capacité de créer.
What we call art,
ce que l'on appelle l'art, c'est subjectif. Ce par quoi nous nous définissons, aussi, c'est subjectif. Par le passé, j'ai hésité à me qualifier moi-même d'artiste. Je conçois des choses, je m'exprime dans des domaines que j'aime, le cinéma, mais aussi la musique et l'écriture de diverses façons. Mais est-ce que cela fait de moi un artiste? Je ne sais pas. Je suis quelqu'un de créatif, je m'exprime. Mais tous les gens sont créatifs. Ça peut être dans leur façon de raconter une blague, ou leur façon de s'habiller, ou leur façon de voir le monde, ou de bouger. Et quand ils font leurs choix, ce sont des choix créatifs. La plus belle chose chez l'être humain, à mon avis, le plus beau cadeau dont les humains sont pourvus, c'est l'imagination. Qu'elle s'applique aux sciences, ou à l'art, ou à l'architecture, d'abord vous imaginez votre objet, pour ensuite mener votre recherche, votre processus de création, ou votre démonstration si votre domaine est scientifique. Mais c'est l'imagination qui est le plus fort de nos atouts.
Donc un chauffeur de bus à Patterson, qui écrit des poèmes, peut être un artiste.
Mais bien sûr.
Mais
les poètes sont singuliers. Personne n'écrit de la poésie pour gagner de l'argent. Les poètes ne se font pas de fric. Nos grands poètes, nos grands écrivains, ont souvent eu des petits boulots, n'importe quoi. Que ce soit Apollinaire ou Kafka, ou Robert Walser, ou Pessoa au Portugal, William Carlos Williams était médecin. Frank O'Hara était conservateur au Musée d'art moderne à New York. Il y avait aussi notre grand poète américain, Wallace Stevens, qui était cadre dans une compagnie d'assurance. Ils avaient un boulot ailleurs, mais ils arrivaient toujours à écrire leurs poèmes. Et dans le cas de Patterson, il a un métier d'employé, il est conducteur de bus, et la régularité de ce boulot lui est très précieuse, parce que les images, les rencontres, les inspirations le travaillent toute la journée. Et il tire de tout cela son inspiration pour écrire ses poèmes.
En fait, c'est très difficile d'écrire un poème, et je dirais même que c'est presque plus difficile d'écrire un bon poème que de faire un beau film.
C'est difficile à dire. Parfois, les poètes, les auteurs de chansons, disent que le poème leur apparaît et qu'ils n'ont plus qu'à le coucher sur le papier. Mais cela demande un certain état d'esprit qu'il peut être difficile d'atteindre. Il faut avoir l'esprit ouvert, disponible pour son art, pour y arriver. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Les artistes ont chacun leur façon de faire. Igor Stravinsky, il se mettait au travail chaque jour, à heure fixe, pour composer sa musique. D'autres musiciens, comme mon ami Neil Young, disent « Non, l'idée doit me venir et moi je dois être prêt pour la retranscrire. » Ça dépend vraiment de chaque artiste, je crois.
Dans le film, on dit « Traduire un poème, c'est comme prendre une douche avec un imperméable. » Est-ce que ça veut dire que vos films, on ne doit pas les voir doublés? On doit les voir en version originale.
Oui, parce que je choisis les comédiens pour leur présence. Et leur voix fait partie de cette présence. Si vous plaquez une autre voix, c'est très perturbant. C'est comme prendre une douche, mais avec un imperméable. Vous n'entendez rien. Moi, je travaille avec une personne dont l'instrument est en grande partie sa voix. Si on entend une autre voix qui fait moi, je me dis, mais à quoi bon? Ça me rend dingue. Si je choisis Tom Waits pour mon film, j'ai pas envie de l'entendre parler espagnol avec la voix d'un autre. C'est flippant. Ou Robert Mitchum, oui. Ça me fait flipper quand j'entends ces voix-là, ça. J'aime pas du tout. Parfois, c'est bien fait. Là, je viens d'écouter les voix italiennes pour Patterson. Et c'était très bien. Et puis, j'ai écouté les voix espagnoles qu'on me proposait. Elles étaient catastrophiques, comme des voix de dessin animé. J'ai dû les refuser et dire « Non, allez, quoi ». C'est très contrariant pour moi de devoir laisser mes films être doublés. J'ai horreur de ça.
There goes your queen, Playboy. By the way, your hero, Christopher Marlowe, sends his love.
I don't have heroes. I know what you're doing. You're trying to distract me. Now, no more talking.
Did you play chess with Byron?
Eve, please.
No, I want to know. You love telling me these things, and I love to hear them. So what was he like?
Frankly, he was a pompous ass.
Why am I not surprised? And what about Mary? What was Mary Wollstonecraft like? Come on, tell me, what was she like?
She was delicious.
I'll bet she was.
Patterson est aussi un hommage, une ode à l'amour conjugal. Cet amour semble éternel, un peu comme dans le film d'avant, Only Lovers Left Alive, non?
Yes, they're similar in that.
Oui, il y a un lien.
Stories,
dans les deux histoires, les deux amants se complètent. Ce sont des gens différents. Ils ne se ressemblent pas d'une certaine façon et d'une autre, ils sont pareils. Mais tous les deux admettent l'autre pour ce qu'il est. Ils ne tentent pas de le changer. Ils ne s'offusquent pas que l'autre soit différent. Ils se respectent l'un l'autre. Ils se soutiennent, même quand ils se déçoivent. Et dans Only Lovers Left Alive, Eve ne vit même pas avec Adam. Elle vit ailleurs, loin de lui. Mais elle l'aime profondément. Il s'aime profondément. Peut-être qu'elle avait besoin de se casser un peu parce qu'elle avait vécu avec lui pendant 500 ans. C'est l'important pour moi. L'amour, c'est accepter l'autre pour ce qu'il est. Si vous n'êtes pas capable, il y a un conflit. Mais bon, je ne suis pas expert. Jamais je ne dis aux autres ce qu'ils devraient faire. C'est simplement ce que j'ai pu observer. Ceux qui acceptent leurs amants pour ce qu'ils sont, vivent peut-être une plus longue et forte histoire d'amour.
Et pas besoin de scène d'amour pour parler d'amour.
Non, une scène d'amour, cela peut être des regards. Donc non, ça dépend. Dans Only Lovers Left Alive, il y a une scène où il retire ses gants à elle. Et c'est presque sexuel, là. Alors que c'est pourtant juste des gants qu'il lui retire. Donc, oui. Je ne sais pas. La sensualité, l'amour, le sexe sont à l'écran entremêlés. Le sexe à l'écran, cela peut n'être que des regards.
Mais vous n'avez jamais filmé de scènes de sexe, jamais voulu, jamais pu, jamais eu d'occasion.
J'ai
l'impression que j'ai un petit problème avec ça. Les scènes de sexe, souvent au cinéma, c'est un cliché pour moi. Et c'est pour ça qu'elle ne me parle pas. Il y a une scène érotique amusante dans un de mes premiers films, Mystery Train. Les deux héros font l'amour à toute vitesse. Ils sont très jeunes et pas très expérimentés. Alors, ça finit très vite. C'est plutôt une scène de comédie, mais avec de la tendresse. Et puis, c'est pas grave, ils apprennent. Il y a un film que j'aimerais tourner, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes personnages. Alors, ce n'est pas mon prochain film, mais dans ce que j'ai déjà écrit, ils font souvent l'amour. Ils sont jeunes, ils sont fous, ils veulent apprendre l'amour, ils sont amoureux, ils veulent découvrir l'amour et le sexe. Ils sont très charnels. Mais je réfléchis encore à la façon dont je vais filmer ces scènes-là, parce que le sexe, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être drôle, ça peut être contrariant, ça peut être incroyablement beau, ça peut être un petit peu mélancolique, ça peut être un ratage, ça peut être décevant, ça peut être beaucoup de choses, c'est comme une conversation. Mais on est vraiment dans l'intime, et ça peut être mécanique, tout comme ça peut être très sensuel. Ça peut être partagé ou en sens unique. C'est très varié.
Et
c'est compliqué pour moi de filmer ça. D'habitude, au cinéma, c'est traité par des clichés.
Dans Patterson, Laura repeint sa maison en noir et blanc. Vous avez quand même réussi, Jim, à faire un film en noir et blanc à l'intérieur d'un film en couleur.
C'est
un peu un clin d'œil, en fait, parce que plus tard, ils vont au cinéma et voir un film en noir et blanc, et ils en discutent, ils disent « Ah oui, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu de film en noir et blanc. » Moi, j'aime les films en noir et blanc.
Parce qu'il y a plus de contraste, il y a plus de nuances aussi.
L'image est plus abstraite, puisqu'il n'y a pas les couleurs. Votre imagination est convoquée, parce que le film ne vous donne pas les teintes de ce que vous voyez. Ça peut être une expérience assez magique. Ça peut rendre le film plus magique encore. Bien sûr, ça dépend du film. Mais ça peut ajouter de la magie à un film qui aurait des couleurs vives et prétendument magiques. Le noir et blanc peut aussi évoquer une dimension onirique, puisqu'il est moins réaliste. Notre œil ne voit pas le monde en noir et blanc. Ça peut là aussi ajouter de la magie. Moi, j'adore les films en noir et blanc et je ne comprends pas pourquoi on n'en tourne pas plus.
Ce n'est
pas parce qu'on a inventé la photographie que tout le monde s'est arrêté de peindre. Ce n'est pas parce qu'on a les ordinateurs qu'on n'a pas le droit d'écrire au stylo. Et ce n'est pas parce qu'on peut produire des images en couleur qu'on doit renoncer au noir et blanc. J'ai envie de saisir toutes les possibilités. Et le noir et blanc en est une, qui est très belle.
Avec vos cheveux blancs et souvent habillés en noir, moi je vous vois en noir et blanc. Vous êtes noir et blanc.
Là, je ne l'ai pas fait exprès. Quand j'étais très jeune, adolescent, j'ai hérité de ma mère ses cheveux blancs. Alors que je n'étais encore qu'adolescent. Et puis au lycée, j'étais quelqu'un de lunatique. Et j'ai commencé à m'habiller en noir. C'était à cause de Zorro, d'Hamlet, de Roy Orbison, et ce genre de personnages qui, pour moi, correspondaient à l'adolescence ténébreuse. Et aujourd'hui encore, je suis plus à l'aise. Enfin, en même temps, regardez, j'ai une chemise bleue, ma veste est grise, je suis pas tout en noir. Mais bon, j'aime bien les vêtements sombres, c'est vrai.
Récemment, je rencontrais Ken Loach, et Ken Loach me disait qu'il ne disait jamais « action ».« Action » avant une prise, parce qu'il y a pas, il faut respecter l'histoire, les acteurs. Est-ce que vous, vous dites « action » ?
On dit action, mais je ne le dis plus moi-même. Je demande à l'assistant réalisateur de le dire, très calmement. On dit, est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est bon pour le son? Et l'ingénieur du son répond, ça tourne. Et là, on dit, doucement, action. Mais c'est un peu démodé. C'est amusant. Samuel Fuller avait l'habitude de tirer un coup de feu au lieu de dire « action ». Certains prononcent un autre mot. Et moi, quand je tournais « Dead Man », pour certaines scènes, nous avions des chevaux qui avaient déjà tourné dans des films. Et il y en avait un, quand on disait « action », qui paniquait complètement. C'était un cheval qui reconnaissait ce mot. Alors à chaque prise, il fallait que je change de mot. J'inventais un truc, n'importe quoi.
« Hamburger ».
Mais vraiment, n'importe quoi en fait, hein. Godasse. Mais un truc très calme, parce que le cheval était à l'écoute. Il attendait qu'on dise action, et moi il fallait que je le piège, coupe de cheveux, n'importe quoi. De toute façon, c'est un peu grotesque, action. Ken Loach a raison, c'est un peu ridicule.
Beaucoup d'Américains ont peur d'aller à Paris. Vous n'avez pas peur?
Non,
on ne peut jamais savoir. La vie, c'est très précaire. On a là des fous, des idiots, qui ont fait de Paris leur cible. Pour moi, c'est déchirant, parce que j'aime Paris. Tout peut arriver, n'importe quand. Mais bon, on peut aussi se faire écraser par un taxi, ou une météorite peut soudain frapper la Terre. Tout est très précaire. De là à vivre dans la peur, cette année à Cannes, il y avait moins de gens à cause de l'inquiétude. Je le comprends bien, je ne critique pas l'inquiétude ou la peur qu'ont les gens. C'est leur choix. Pour ma part, j'ignore le temps qui me reste à vivre et je refuse de me laisser influencer par ces enfoirés. Moi, je continue. Je ne suis pas inconscient, je reste prudent. J'ai longtemps habité à New York à la fin des années 70. Il fallait faire gaffe autour de soi, à ceux qui avaient un flingue, à ceux qui avaient un couteau, à ceux qui voulaient vous voler vos chaussures. Je ne suis pas quelqu'un d'insouciant dans la rue. Je sais bien ce qui peut m'arriver, mais j'essaie de ne pas me laisser mener par la peur. Je n'aime pas que la peur me contrôle. Et je vais là où je veux.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris que Bob Dylan était prix Nobel de littérature?
Je n'aime pas beaucoup les prix. À moins qu'ils n'aident quelqu'un dont le travail est remarquable, mais qui n'est pas assez reconnu. Le prix Nobel, ça représente beaucoup de fric et beaucoup de reconnaissance. Moi, j'adore Bob Dylan, je l'apprécie très profondément, mais il a déjà plein de fric et beaucoup de reconnaissance. Alors, je ne vois pas tellement à quoi ça sert. C'est comme à Cannes, à la remise des prix. Cette année, certains ont regretté que Tony Erdmann ne soit pas récompensé alors que Ken Loach recevait la palme. Tony Erdmann, c'est un film qui va être vu. Il a des distributeurs. Il va être montré dans le monde entier. Il n'avait pas vraiment besoin d'un prix. Les films de Ken Loach sont plus singuliers. Quand il a reçu sa récompense, j'ai pensé que cela justifiait complètement la raison d'être d'un prix. Je ne suis pas un grand défenseur des prix, mais s'ils peuvent aider à soutenir un artiste qui travaille sans être aussi reconnu qu'il le mérite, là, c'est très bien. Bob Dylan, lui, il n'en a pas besoin. Mais bon, je ne sais pas. Je suis très partagé sur ce sujet. C'est quelqu'un de génial. Il est fantastique. C'est un grand poète. Et un grand amoureux de la chanson, du songwriting. Il m'a été très précieux dans toute ma vie. Mais a-t-il besoin d'un prix Nobel? Non, je ne crois pas vraiment.
Mais vous savez, vous avez parlé de Tony Erdmann, mais moi j'aurais aimé aussi voir votre film au palmarès. En a-t-il besoin ou pas? C'est juste un beau film et on aime voir les films qu'on aime au palmarès. Donc vous êtes assez généreux pour dire Ken Loach en a plus besoin que moi.
Oui, parce que mon film va sortir aux États-Unis. Il est distribué par Amazon Pictures.
A distributor, my film is released already in France by.
En France aussi, il est distribué par Le Pacte. J'ai des perspectives fantastiques pour mes films, moi. Et puis je suis très timide. J'aime pas recevoir des prix. Ça me met très mal à l'aise. J'y comprends rien. Quand j'étais jeune, j'ai été ravi que mon film Stranger Than Paradise reçoive la caméra d'or à Cannes parce qu'on n'avait pas prévu qu'il soit montré à qui que ce soit. On était très heureux, et ça a aidé le film. Mais aujourd'hui, pour Patterson, la récompense, c'est de pouvoir montrer le film à Cannes et d'y recevoir un bon accueil. C'était ça notre récompense. On était très heureux comme ça. Si on avait eu un prix, j'aurais pas été ravi, hein, sincèrement. Et puis Ken Loach, c'est un guerrier. Il se bat pour ses idées. Ses films sont singuliers. Et ils sont peut-être un peu plus difficiles à distribuer. Alors moi, je dis que je me réjouis que le prix aille à son film, ou à un réalisateur roumain qui n'aura pas les mêmes facilités de distribution. Je sais pas. Les prix, c'est toujours assez politique. J'aime bien quand ils aident à faire connaître les films de par le monde. Et Bob Dylan, il n'a pas besoin de prix. Il n'en veut pas, d'ailleurs. Merde, il faut que j'aille recevoir mon prix. Il a même pas envie d'y aller.
Et dernière question, quand arrêterez-vous de faire des films?
J'ai envie de citer Akira Kurosawa quand on lui a posé cette question. Il était déjà vieux. J'arrêterai de faire des films quand j'aurai appris comment on en fait. Et c'était un maître. Il plaisantait, mais il était humble aussi. Et je pourrais dire la même chose. J'arrêterai de faire des films quand ce sera devenu trop contrariant et douloureux de trouver l'argent. Le jour n'arrivera jamais où je dirai « Ah, ça y est, je sais comment on fait un film ». Parce que j'apprends à chaque fois. J'espère ne jamais m'arrêter. Mais là, dans ma vie, j'ai besoin de faire d'autres choses. J'ai besoin de faire de la musique, de varier mes activités. Alors j'essaie de composer, de dessiner, d'écrire un petit peu plus. J'ai besoin d'un peu plus d'équilibre. Mais j'aime tellement les films. J'aime les faire. J'aime en regarder. C'est un art de toute beauté.
Ah, Jim Jarmusch, l'auteur du film Patterson, qui est sorti mercredi. On se retrouve pour les autres sorties de la semaine, Laurent, après Parquet Courts. I know exactly where I was when I first saw you, the way I see you now through these eyes, waiting to retry. Those pristine days I recall so fondly. So few are the trials when a life isn't lonely. And now if only I'd never felt it, I'd never heard it. I know I loved you, did I even deserve it? When you returned it, there's no suspicion, no hesitation. Believing through the eyes of sure adoration. Witness it now. Sentence tremors, mind at its weakest. One way of shaking off the thoughts that it sleeps with. Les sorties de cette semaine de Noël, Laurent, on va commencer par le nouveau film de Yousri Nasrallah. Vous savez, c'est le fils spirituel de Youssef Chahine qui a tracé sa propre voie, notamment dans le passé, avec Mercedes, on s'en souvient, ce film godardien. Après des docs, et notamment à propos des garçons, des filles et du voile, il revient à la fiction avec ce film Le Ruisseau, le Prévert et le Doux Visage, l'histoire de Yéa, qui est chef cuisinier, et son fils Refat, passionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons. Il prépare des banquets pour des cérémonies de fête, mais lors d'un mariage paysan orchestré par Yéa et ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours secrètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse proposent de racheter leur commerce.
Oui, alors on redit le titre, hein, Le Ruisseau, le Pré Vert et le Doux Visage. C'est dans la poésie arabe la définition du paradis. Ça me fait rire de trouver dans la définition du paradis de la poésie arabe le Pré, plus loin, Vert. Mais enfin, alors, chez nous, on l'écrirait d'une seule façon. Mais enfin bref, c'est assez rigolo. Et c'est un magnifique titre, c'est certainement le plus beau titre de cette semaine et au-delà. Écoutez, ce qui est très drôle, c'est que ça pourrait être une série d'épisodes de Plus belle la vie. Ce Nasrallah, autour d'un restaurant, vous avez raison, alors en péril parce qu'il est la proie d'un richissime prédateur, alors donc, il y a donc des bons et des méchants, comme dans Plus belle la vie, et ça feuilletonne à mort. Effectivement, c'est revendiqué, c'est assumé comme tel par Nasrallah, et ça marche. Le pire, c'est que ça marche, ou le meilleur, c'est que ça marche. C'est-à-dire que Nasrallah se coule dans les codes, il y va franchement, mais sans oublier, évidemment, une sorte de second degré, un humour permanent. Il suffit de se rappeler de la scène finale que je ne raconterai pas. Et puis, il y a aussi cette gourmandise qui traverse quasiment tous les personnages, gourmandise au sens réel du terme, c'est-à-dire que la cuisine est un des centres éditoriaux du film, et ça, c'est très réjouissant. Vous disiez qu'il y a un esprit toujours chez Nasrallah, c'est celui de Chahine qui souffle. Et ben là, Chahine souffle absolument tout le temps, et c'est tant mieux. Ben, ce qu'il emporte ici, au-delà de ce feuilleton, c'est la vie, le mouvement, et le cinéma. Tiens, une fois de plus, on le retrouve. Le Ruisseau, le Pré Vert et le Doux Visage. C'est le nouveau film de Nasrallah qu'il faut aller voir.
La prunelle de mes yeux d'Axel Repère, dont on avait bien aimé le précédent, Tirer la langue mademoiselle, celui-là nous laisse plutôt circonspect. Une fille, un garçon, elle aime la musique, ils se détestent, ils se croisent sans cesse dans l'ascenseur, puisqu'ils habitent le même immeuble, elle est aveugle, il voit parfaitement, un jour par provocation, il se fait passer pour aveugle auprès d'elle, ce qui n'était qu'une mauvaise blague dure, la mort arrive, la situation se complique, et la supercherie va devenir explosive. C'était pas mal comme thème sur le papier, sauf que cette comédie romantique, fantaisiste et métaphorique ne fonctionne jamais. Et dès les premières images, tout paraît si artificiel, comme notamment le background grec qu'elle invente à ses deux frères.
Et oui, hélas, ouais. Parce que non seulement il y avait le film précédent Tirer la langue mademoiselle, mais le premier film d'Axel Repert, c'était vraiment bien, ça s'appelait La famille Wahlberg, et c'était pour un premier film très 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 prometteur, le second tenait les mêmes promesses, et puis là, c'est le troisième, c'est la chute. Bon, il paraît que ça arrive, hein, le troisième long métrage, c'est peut-être le plus difficile, il faut continuer dans un champ, et puis peut-être faire autre chose en même temps. Alors là, se faire autre chose, ce serait L'amour est aveugle, bon, bah dites donc, quel programme, hein, c'est pas très original. C'est là où vraiment Axel Repert chute, quoi. C'est que contrairement à son habitude, elle nous fait un film qui est dont le comique tombe à plat et qui génère du coup, enfin pour ma part en tous les cas, beaucoup de malaise. Franchement. Alors quoi? Eh ben, il faut attendre le quatrième film, ça sera le bon. Alors pas douter.
Souvenir de Bavo de Furnes avec Isabelle Huppert et Kevin Azaïs, le jeune héros tant aimé. Des combattants, une chanteuse oubliée qui a autrefois participé à l'Eurovision rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un comeback. C'est en se demandant ce que deviennent les gens qui n'ont pas gagné l'Eurovision que Bavo de Furn a eu l'idée de souvenir. L'affiche est kitsch. Le film l'est-il, Laurent ?
Mais ça part plutôt bien, hein, façon Demi ou Vecchiali, vous savez, avec la belle qui aime la brute, quoi, un petit peu. Hein, c'est ça à résumer l'intrigue, le scénario. Et les deux en question sont parfaits, parfaitement crédibles. C'est-à-dire Huppert, d'une part, absolument impérial, dans un rôle absolument mélancolique. Et puis Kevin Azaïs, qu'on connaît bien depuis Les Combattants, et qui joue très très bien le rôle de la brute. Et le problème du film, c'est vraiment dommage, c'est que de ce bon point de départ, le scénario ne fait pas grand-chose, ça ne décolle jamais réellement, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, on finit par se désintéresser de ces deux personnages, et c'est bien dommage, et notamment avec une certaine paresse du côté musical, alors que le film se veut comme une vraie belle promesse cinématographique et musicale. C'est dommage ce souvenir, vraiment dommage.
Un grand doc m'appelle Thorpe, Look at the Pictures, un portrait du photographe américain mort du sida en 89, portrait signé Fenton Bellet et Randy Barbato. Un portrait pas du tout hagiographique de ce photographe qui a provoqué le scandale à New York dans les années 70-80 avec ses photos d'hommes nus, de sexe en érection et en diverses situations extrêmes, SM et autres, sa sexualité aussi, son mode de vie. Nombreux témoignages, sa sœur, son jeune frère, ami, amant, galériste évoquent cette figure fascinante, cruelle parfois et qui a tout fait, il ne le cachait pas, pour devenir ce photographe célébré qu'il est devenu. Témoignage d'une époque aussi, New York, ces années-là, où m'appelle Thorpe confondait sa vie, son art, obsédé de reconnaissance. Le film décrit aussi bien sûr la naissance d'un style qui ne se limitait pas à ces clichés qui ont fait scandale, mais à tous les autres photos de fleurs ou de personnalités qu'il côtoyait, Laurent.
Oui, oui, ça reste un immense, évidemment, photographe, c'est presque une bêtise que de le dire ou que d'avoir besoin de le dire. Il y a aussi, vous disiez, le sexe, la violence, les corps nus, les corps noirs aussi, hein, très très important pour l'Amérique de cette époque et encore maintenant, qui parfois refuse, avec une grande attention, je trouve, au contexte quand même effectivement politique et social, parce que même si les photos de Mapplethorpe peuvent maintenant nous semblent être un peu frappées de classicisme, on va dire presque d'une froideur, il faut quand même toujours les replacer dans leur contexte et bien se rappeler qu'elles sont faites notamment dans les années sida, et que pour les États-Unis, c'est une sacrée claque dans la gueule, et pas seulement pour les États-Unis d'ailleurs.
C'est drôle de voir ces femmes avec leurs gants blancs sortir ces photos de sexe.
Oui, avec ça, il y a un léger décalage. C'est vrai. L'hypertrash, l'hyperprovocateur, avec des dames qui prennent le thé quasiment, c'est
très drôle, très chic, très snob. Tim Gad de Fabrice Benchaouch. C'est un premier film. Lorsqu'il foule le sol algérien, Jamel, archéologue français d'origine algérienne, vient pour effectuer des fouilles sur les ruines romaines du village natal de Tim Gad. Le passé s'offre à lui et le présent lui tombe dessus lorsqu'il est propulsé entraîneur de foot de l'équipe locale. C'est rigolo comme sujet.
Oui, le film nous tombe dessus aussi. Bon, c'est vrai, c'est un beau sujet, c'est un feel-good movie revendiqué. Alors, on aimerait l'aimer, parce que c'est fait pour ça, les feel-good movies, c'est fait pour qu'on les aime d'entrée de jeu, sans trop réfléchir, en se laissant porter. Mais hélas, tout ça est assez feignant. Et d'abord, le scénario est feignant, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas beaucoup. Ces petits joueurs de football qu'on suit, on voit bien quel va être leur destin. Et il faut avouer qu'il y a certains acteurs qui ont font des tonnes, mais vraiment des tonnes, c'est au bulldozer, et c'est l'ensemble du coup ne décolle jamais, et c'est vraiment dommage, on aurait aimé dire plus de bien de ce Tim Gad.
En revanche, il y a deux ou des acteurs qui n'en font pas des tonnes, deux grandes reprises, c'est, attention, Cri et chuchotement, Ingmar Bergman, Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Harriet Anderson.
Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'intelligent sur Cri et chuchotement de Bergman, sinon à ceux qui ne l'ont jamais vu, de courir le voir en salle, voilà, sur grand écran. C'est ça qu'il faut dire, parce que ce film où le rouge est roi ne se voit que sur grand écran. Tout autre écran petit ne vaut pas ce film et ne mérite pas ce film. Voilà ce qu'il faut dire.
L'autre reprise est japonaise, Quand une femme monte l'escalier, de Mikio Naruse.
C'est même un inédit, en fait, de Naruse. Un inédit en France, évidemment. Oui, 1960, Cinémascope, noir et blanc, incroyable. C'est l'errance d'une entraîneuse dans les bars de Tokyo, entre jazz et voix off, pour porter un formidable portrait de cette femme au bord de la crise existentielle.
Et comme on est à Noël, on est le jour de Noël.
Oui, cadeau.
La veille, le soir, enfin bref, le matin, tout ce qu'on veut. Il y a encore quelques heures pour faire les courses, donc.
Exactement.
Que vous proposez?
Eh bien, je vous propose une thématique Michel Audiard, figurez-vous, parce que les éditions Hugo et Images nous proposent une belle Michel Audiard, une belle encyclopédie sur Michel Audiard par Stéphane Germain, avec tous les films d'Audiard radiographiés, les citations, les acteurs, les castings, tout ça est très très bien fait. Au chapitre Mortelle randonnée, car chaque film fait l'objet d'une fiche, Stéphane Germain dit très justement, le dernier très grand film d'Audiard est peut-être son plus grand film. Je suis entièrement d'accord, Mortelle randonnée est un bijou noir, et comme par hasard et comme par magie, il ressort en DVD chez TF1 Vidéo, collection Héritage, DVD, Blu-ray, version courte, version longue, avec en plus un magnifique petit livret et un documentaire sur le tournage du film. C'est, à mon sens, l'un des beaux DVD de cette fin d'année que celui de Mortelle randonnée chez TF1 Vidéo.
Sinon, le 25 décembre, moi, je regarde chaque année La vie est belle, de Frank Capra.
Impératif, indiscutable.
Merci beaucoup. Alors, on retrouve toutes les infos sur le site.
Franceinter.fr, bien entendu, et vous pouvez également podcaster l'émission, bien sûr.
À la semaine prochaine, générique avec le grand Jim Jarmusch.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound. It's radio. The title music was written by Sporto Cantes. The songs have been chosen by Muriel Perez. Martine Meissonier prepared. Anne Weinfeld directed. Christine Masson and Laurent Delmas produced and presented. And I, Jim Jarmusch, for some reason, was in it.